Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans « Sissi, impératrice d'Autriche », Jean Descartes propose une biographie historique d'Élisabeth de Bavière, devenue impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, après son mariage avec François-Joseph en 1854. L'ouvrage cherche à dégager la personne historique derrière la figure popularisée sous le diminutif de Sissi et transformée, après son assassinat à Genève en 1898, en icône romantique. Spécialiste des grandes dynasties européennes, l'auteur s'appuie sur une enquête menée durant 5 ans dans les territoires de l'ancien empire des Habsbourg, ainsi que sur des archives, des témoignages et des rencontres avec des descendants. Le livre restitue à la fois une trajectoire intime marquée par l'inadaptation à la cour, la mélancolie et le besoin de fuite, et une position politique singulière dans une monarchie multinationale. Il éclaire notamment les liens d'Élisabeth avec la Hongrie, sa sensibilité aux fractures balkaniques et la manière dont l'existence privée se confond progressivement avec les tensions de l'Europe impériale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, démystifier l'icône romantique en retrouvant Élisabeth derrière Sissi. Le premier enjeu de cette biographie consiste à distinguer Élisabeth d'Autriche de l'image lisse et sentimentale associée au nom de Sissi. Jean Descartes ne nie ni sa beauté célèbre, ni le caractère romanesque de son accession au trône jeune princesse bavaroise. Elle épouse François-Joseph alors qu'elle n'était pas initialement destinée à ce rôle. Mais ce point de départ, presque féerique, ne suffit pas à expliquer sa vie. Le livre replace l'impératrice dans les contraintes concrètes de la cour viennoise, de l'étiquette et de la représentation dynastique. Son tempérament indépendant, son goût de la solitude et son refus partiel des conventions y apparaissent moins comme de simples traits pittoresques que comme les facteurs d'un conflit durable avec sa fonction. Cette méthode donne au personnage sa complexité. Élisabeth peut susciter l'attachement sans être réduite à une victime idéale. Et son non-conformisme n'est pas présenté comme une liberté sans conséquence. La biographie insiste sur la distance entre l'individu et le rôle public que lui impose la monarchie. En cela, elle traite aussi de la fabrication d'un mythe. L'assassinat de 1898 fixe une image tragique que la culture populaire, les artistes et le cinéma ont ensuite amplifiée. Revenir à l'histoire permet donc de comprendre pourquoi cette souveraine fascine, tout en résistant aux simplifications que sa légende a encouragées. Deuxièmement, la cour de Vienne, comme cadre d'un malaise personnel et dynastique, l'ouvrage montre que le malaise d'Élisabeth ne peut être séparé du système impérial dans lequel elle entre. La cour des Habsbourg n'est pas seulement un décor prestigieux, elle constitue une institution très codifiée, où chaque comportement d'une impératrice engage l'autorité de la dynastie. Venue d'un univers bavarois moins contraignant, Élisabeth se heurte à cette discipline sociale et politique. Les critiques qu'elle suscite à Vienne révèlent ainsi une incompatibilité entre les attentes de la capitale impériale et une personnalité qui supporte mal l'enfermement. Protocolaire. Jean Descartes met en avant le spleen persistant de Sissi, terme qui désigne ici une mélancolie profonde plutôt qu'une simple humeur passagère. Son besoin de voyager et de se soustraire aux obligations de représentation peut être lu comme une réponse à cette pression. Il ne s'agit pourtant pas de faire de la fuite un geste purement esthétique, l'éloignement protège l'impératrice, mais complique aussi son inscription dans le quotidien de la monarchie et dans les attentes placées sur elle comme épouse et souveraine. Cette attention au contexte évite une lecture psychologique isolée. La souffrance personnelle prend sens dans une structure familiale et dynastique où l'intimité est limitée, et où les corps, les mariages et les apparitions publiques participent au pouvoir. Le livre rend donc visible le coût humain d'une fonction impériale souvent idéalisée. Troisièmement, la Hongrie, lieu d'une popularité politique que Vienne ne partage pas. L'un des aspects les plus importants du portrait est le contraste entre la réception d'Élisabeth à Vienne et son prestige durable à Budapest, sous le nom hongrois d'Erzsébet. Elle est vénérée pour la sympathie qu'elle manifeste envers les Hongrois et pour son soutien au nationalisme magyar face à la centralisation autrichienne. Jean Descartes ne réduit pas cette relation à une préférence personnelle, elle éclaire les tensions fondamentales d'un empire composé de peuples, de langues et de revendications politiques diverses. Dans ce cadre, l'impératrice dispose d'une influence qui n'est pas celle d'un ministre ou d'un diplomate. Sa position provient de son accès à François-Joseph, de sa popularité symbolique et de son aptitude à représenter une médiation possible entre la couronne et les élites hongroises. Le livre souligne ainsi qu'une souveraine, même privée d'autorité gouvernementale directe, peut peser sur la perception d'un compromis politique. Son attachement à la Hongrie lui donne une identité publique distincte de celle que la cour viennoise cherche à lui assigner. Cette dimension politique corrige l'image d'une femme entièrement retirée du monde. Élisabeth se détourne souvent de Vienne, mais elle ne se désintéresse pas nécessairement des peuples qui composent la monarchie. Son cas permet de comprendre comment l'affection populaire, la langue et les fidélités nationales deviennent des enjeux de stabilité dans l'Empire austro-hongrois. La biographie relie ainsi une figure personnelle à la question, plus large, de la cohésion impériale. Quatrièmement, les voyages d'Élisabeth et sa perception des fragilités balkaniques, Jean Descartes accorde une place significative à Élisabeth voyageuse. Ces déplacements fréquents répondent d'abord à un désir d'échapper à la cour et à ses contraintes, mais ils ont également une portée intellectuelle et politique. En parcourant l'espace européen, et particulièrement les zones proches des marges de l'Empire, elle observe des réalités que le cérémonial viennois tend à tenir à distance. Le livre la présente comme plus lucide que nombre de diplomates sur les déchirements balkaniques qui menacent l'équilibre continental. Cette appréciation ne signifie pas qu'Élisabeth devienne une analyste institutionnelle ou une décideuse de premier plan. Son importance réside plutôt dans sa sensibilité précoce aux nationalités, aux rivalités et aux fractures de régions que les grandes puissances ne peuvent durablement administrer par la seule autorité dynastique. La biographie met ainsi en rapport son expérience mobile de l'Europe avec le caractère vulnérable de l'Empire austro-hongrois. Les Balkans ne sont pas un simple arrière-plan exotique, ils annoncent les tensions qui contribueront à faire basculer l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Le thème des voyages permet aussi de nuancer l'idée d'une fuite exclusivement privée. Chez Élisabeth, le départ est à la fois une stratégie de survie personnelle et une ouverture sur le monde. Cette ambivalence est centrale, l'impératrice se soustrait à son milieu, tout en percevant, depuis ses déplacements, les limites historiques de l'ordre politique dont elle est l'une des figures. En dernier lieu, une enquête biographique qui relie archives, mémoire familiale et histoire européenne. Ce qui distingue le travail de Jean Descartes est l'ambition documentaire annoncée par son enquête de 5 ans dans l'ancien empire des Habsbourg. L'auteur a recherché des archives et des souvenirs inédits, tout en rencontrant des descendants de Sissi. Cette démarche ne garantit pas à elle seule une vérité définitive sur un personnage aussi mythifié. Elle permet toutefois de confronter les représentations héritées à des traces plus proches du contexte familial, dynastique et territorial de l'impératrice. La biographie ne s'enferme pas dans l'anecdote de cour. Elle associe l'existence d'Élisabeth aux structures de l'Europe du XIXe siècle, la monarchie des Habsbourg, les relations austro-hongroises, la montée des nationalismes et l'instabilité balkanique. Ce changement d'échelle est essentiel. Il explique que les attitudes de Sissi envers Vienne, Budapest ou le voyage ne relèvent pas uniquement de préférences individuelles. Elles prennent place dans un continent où les empires tentent de préserver leur cohésion face à des aspirations contradictoires. Le livre conserve néanmoins une écriture accessible et vivante selon les appréciations souvent formulées par ses lecteurs. Son intérêt tient à cet équilibre entre restitution narrative et mise en contexte. Jean Descartes ne propose pas un traité académique sur l'Autriche-Hongrie, mais une biographie documentée qui fait de l'impératrice un point d'entrée vers l'histoire politique et culturelle de l'Europe impériale. La précision de l'enquête sert donc une lecture d'ensemble, plutôt qu'une accumulation de faits isolés. En conclusion, Sissi impératrice d'Autriche s'adresse en priorité aux lecteurs de biographies historiques, aux amateurs des Habsbourg et à ceux qui souhaitent comprendre l'Europe centrale du XIXe siècle à travers une destinée individuelle. Il conviendra également à un public qui connaît surtout l'image cinématographique ou romantique de Sissi, et je veux mesurer l'écart entre cette image et la réalité plus contradictoire d'Élisabeth. Le bénéfice principal de l'ouvrage est de faire tenir ensemble plusieurs niveaux d'analyse la jeune princesse devenue impératrice. La femme en conflit avec le cérémonial viennois, la figure populaire en Hongrie et le témoin attentif des fragilités de l'Europe impériale. Par rapport à de nombreuses évocations centrées sur la beauté, le malheur ou l'assassinat de Sissi, Jean Descartes se distingue par l'ampleur du contexte qu'il restitue. Son enquête dans les anciens territoires habsbourgeois, nourrie d'archives et de témoignages, soutient un portrait qui ne sépare pas l'intime du politique. La Hongrie. Les nationalités de la monarchie et les Balkans ne sont pas de simples éléments de décor. Ils expliquent la singularité de la position d'Élisabeth et la portée historique de son itinéraire. Le livre se démarque aussi par son refus implicite d'une héroïsation totale. Sissi demeure attachante mais complexe, parfois insaisissable et limitée par les conditions de son époque. C'est donc une porte d'entrée solide et lisible vers une souveraine mythifiée, ainsi que vers les tensions qui traversaient l'Empire austro-hongrois avant sa disparition. Si vous souhaitez soutenir Jean Descartes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.